Bonsoir. Double casquette, double vision. Le président de la fêtière de l'industrie des machines pleure pour sa branche, sciée par le Francfort, mais son entreprise, presque entièrement exportatrice, se porte comme une fleur. Elle engage du monde, double sa production, etc. Faudrait savoir. Eh bien, Hans Hess nous répond. Il nous dira quelles entreprises sont les mieux positionnées et puis ce qu'il leur faut pour s'en sortir. On paye trop d'impôts. Les riches français, toujours plus nombreux à s'expatrier pour raisons fiscales, plus 40% en 2013. La politique du gouvernement qui chasse les montants cachés est-elle contre-productive? Les Français qui s'exilent viennent-ils toujours aussi nombreux en Suisse? L'avocat fiscaliste Dominique Laurent est notre invité en direct de Paris. Clémence pour le jeune Tessinois parti en Syrie se battre contre le groupe État islamique. Il a pu récupérer son passeport, il est libre de ses mouvements. Nous nous demandons s'il y a deux poids, deux mesures par rapport à ceux qui partent faire le djihad, si au fond, la cause compte. Les migrants et leur détresse ne quittent pas la une de l'actualité. Sur la Méditerranée, en Italie, en Grèce, dans le tunnel sous la Manche, de quoi donner l'impression d'une vague sans précédent. On va le vérifier avec le professeur Étienne Piguet de l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. Demain, feu d'artifice final des fêtes de Genève. Enfin, pensent certains citoyens qui aimeraient bien que tout ça dure un peu moins longtemps. Parce que un mois de festivités, si on compte tout, avec les nuisances associées, ça fait beaucoup. Ils ont d'ailleurs lancé une initiative populaire communale. Le premier de ces troubles fêtes de Genève, c'est Jean Barthes. Il débat ce soir dans Forum avec Frédéric Hall, député PLR et ancien président des fêtes de Genève.
Forum, Éric Guevara-Frey, Sylvie Belzer.
Le Francfort n'a pas d'impact sur son entreprise, bien au contraire, mais en tant que président de la fêtière de l'industrie des machines, eh bien, il tire la sonnette d'alarme, Sylvie.
Pour le président de Suisse même, Hans Hess, la situation n'a pas changé. Le Francfort met toujours en péril une partie des entreprises exportatrices. Il est toujours aussi pessimiste qu'au mois de février quand il déclarait que l'industrie des machines pourrait perdre 5000 postes et qu'une entreprise sur 5 serait menacée de fermeture. Paradoxalement, vous l'avez dit, son entreprise à lui, Comet Group à Flamatte, qui réalise pourtant la totalité ou quasi de son chiffre d'affaires à l'exportation, va doubler sa production et créer des emplois. Il n'y voit pas de paradoxe. Son entreprise est dans une situation particulière. Hans Hess.
Malheureusement, la situation n'a pas changé fondamentale. Le franc suisse est toujours surévalué de 15% et la pression sur les prix et les marges n'a pas changé. Donc, la plupart des entreprises font face à de nombreux défis et doivent s'adapter pour regagner leur compétitivité.
Le Francfort, certes, il est toujours là. Les entreprises ont dû s'adapter. Mais les conséquences, est-ce qu'elles ont été aussi destructrices que ce que vous prévoyiez?
Je crois que c'est probablement trop tôt pour évaluer ça parce que nous n'avons pas encore examiné toutes les mesures prises par nos entreprises. Je crois malheureusement que ça sera aussi grave qu'on a expecté.
Une entreprise sur cinq menacée de fermeture, hein?
Peut-être.
Il y a les premiers rapports qui tombent sur la situation 6 mois après l'abolition du taux plancher. On a vu que le COF relativisait la situation. Il y a Jean-Pierre Guelfi aussi qui le disait dans un rapport qu'il a rendu pour le canton de Neuchâtel. Finalement, la situation n'est pas aussi grave que ça et le pic de la crise est passé. Aujourd'hui, les entreprises remontent déjà la pente. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
C'est peut-être juste pour d'autres branches, mais il est vrai qu'il y a des branches comme la construction ou le secteur financier qui ont mieux tenu que d'autres. Mais le secteur d'industrie d'exportation ou le domaine du commerce détail, c'est pour ces compagnies-là, il est toujours très difficile.
Hans Hess, vous êtes aussi président de Comet Group, une entreprise qui réalise 99% de son chiffre d'affaires précisément à l'exportation. Et là, Comet a annoncé la création de 250 emplois supplémentaires à Flamatte, va doubler la surface de production. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas si mal?
Oui, il est juste que la compagnie Comet à Flamatte est moins concernée par le Francfort comparé à la majorité des entreprises dans ce secteur d'exportation. Mais il y a plusieurs raisons pour cela. Premièrement, Comet exporte que 25% de ses produits vers l'Union européenne, mais plus d'un tiers vers les États-Unis et aussi vers l'Asie. Comet produit non seulement à Flamatte, mais aussi déjà aujourd'hui aux États-Unis et en Chine. Et finalement, Comet est fortement positionné sur plusieurs marchés internationaux de niche qui, et par cela, comme étaient moins exposés à la pression des prix.
Et donc là, clairement, le francfort, en l'occurrence, n'est pas un handicap. C'est pas un problème.
C'est pas un problème parce qu'on est hedged naturellement. On peut utiliser tous les euros qu'on reçut des clients pour des matériaux ou des salaires.
Mais Hans Hess, c'est le cas d'autres entreprises, il n'y a pas que la vôtre. La plupart des exportateurs n'exportent pas seulement vers l'Union européenne, ils exportent aussi vers l'Asie et vers les États-Unis. Donc est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire quand même avec d'autres entreprises exportatrices?
La majorité des entreprises industrielles en Suisse exportent 60% vers l'Union européenne et seulement 11% vers les États-Unis. Ça, c'est une des différences. Et pas tout le monde est positionné si fortement dans des marchés niches. Et par cela, est plus affecté par le francfort.
Néanmoins, vous allez plus loin. Vous réinvestissez même en Suisse pour doubler votre surface de production à Flamatt. Vous avez une recette anti-crise, Hans Hess?
Oui, c'est juste, nous avons annoncé que nous allons investir non seulement 30, mais 60 millions de francs dans un nouveau bâtiment de production à Flamatt. Mais nous avons développé des technologies très innovatives pendant les années passées et ça nous donne maintenant la possibilité de grandir rapidement ces prochaines années. Donc, nous voulons protéger aussi cette propriété intellectuelle en Suisse et c'est une des raisons pourquoi nous investissons ici en Suisse et pas dans un pays avec des coûts plus bas.
Mais donc en fait les entreprises qui ont du mal, elles peuvent s'en vouloir qu'à elles-mêmes et elles ont qu'à être plus compétitives, se positionner différemment.
Oui, pour les compagnies qui ont cette possibilité, pour eux, la situation n'est pas tellement grave, mais il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas cette possibilité de se différencier et pour eux, le combat au niveau des prix et des marges a massivement augmenté.
Hans Hess, est-ce que malgré tout, Swissmem n'exagère pas un petit peu la situation? On a entendu plusieurs exportateurs ces derniers jours, on a entendu quelqu'un qui venait de l'horlogerie, quelqu'un qui venait des machines. Finalement, tous les deux nous disaient « c'est pas si grave que ça ».
Oui, si c'est la situation pour eux, je suis très heureux. Mais je crois que pour la majorité des entreprises de l'exportation, la situation est toujours grave parce que fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Le franc est toujours fort, il est 15% plus fort. Donc, je ne crois pas que ça a vraiment changé.
Alors, qu'est-ce que vous voulez de la Confédération? Est-ce que le SECO, le secrétariat d'État et l'économie, est assez à l'écoute du monde industriel, de votre branche?
Oui, je crois qu'ils comprennent bien la situation, mais nous avons, c'est non seulement le SECO, c'est aussi la politique, et nous restons convaincus que l'innovation, par exemple, est un des moyens qui permettent aux entreprises industrielles de regagner leur compétitivité et d'améliorer leur marge. Donc
il faudrait plus d'aide à l'innovation?
Oui, nous avons demandé que la Commission pour la technologie et l'innovation, le CTI, qui est le pilier de la Confédération pour soutenir l'innovation du secteur privé, va augmenter ses moyens ou on va ajouter des moyens supplémentaires de 50 millions de francs en 2015 et encore 50 millions de francs en 2016, ce qui pourrait fortement soutenir ces efforts d'innovation de nos PME.
C'était Hans Hess, président de Swissmem, la fêtière de l'industrie des machines. Charles Viploche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. On annonçait le pire il y a quelques mois pour l'économie suisse, pour les exportations après la fin du taux plancher. Et ce pire, semble-t-il, n'est pas arrivé pour l'instant. Est-ce qu'on a été trop alarmiste? Et du coup, le président de Swissmem aussi, il est trop alarmiste?
Mais si vous voulez, quand le taux de change se déplace, qu'il monte, qu'il baisse, ça touche un certain nombre de gens et d'entreprises. Là, quand il s'est fortement apprécié, c'était une bonne nouvelle pour les consommateurs suisses, c'était une bonne nouvelle pour les entreprises importatrices, et c'était une mauvaise pour les entreprises exportatrices, et encore pas toutes, puisque comme on vient d'entendre, celles qui sont innovantes, celles qui sont sur des marchés de niche, celles qui importent en même temps qu'elles exportent, puisqu'elles importent des matières premières, elles importent tout un tas de choses. Oui, on a été alarmiste, ou plutôt ceux qui allaient souffrir ont fait beaucoup de bruit et ceux qui en bénéficient avec silence.
Mais même pour ceux qui souffrent, est-ce qu'ils ont trop peint le diable sur les murailles ou pas?
Ben, ils ont fait leur travail de tirer des sonnettes d'alarme et d'exprimer leur anxiété. C'est tout à fait normal. C'est pas une raison pour la suffisante pour que tout le pays panique.
Ça a un peu donné l'impression générale que c'était dur pour tout le monde. Hein. Alors, Hans Hess nous le disait, ce sont les entreprises qui exportent vers l'Europe qui sont les plus durement touchées, évidemment. Il nous disait que c'était le cas de la majorité des entreprises suisses. Est-ce que ça, là non plus, c'est pas un peu exagéré? Est-ce qu'on est vraiment encore aujourd'hui aussi centré sur l'Europe?
Alors, il faut faire bien attention. Le problème avec l'Europe, c'est pas seulement le problème du taux de change, c'est le fait que l'économie européenne est en panne depuis 2-3 ans, au moins, et que donc les marchés sur lesquels vendent ces entreprises sont des marchés qui sont en berne, en stagnation. Et ces entreprises ont pris deux chocs d'un coup. Mais ces deux chocs différents. Maintenant, la Suisse fait partie de l'Europe physiquement et économiquement. C'est difficile d'imaginer que l'Europe puisse être dans une situation économique difficile, ce qui est le cas depuis plusieurs années, et que la Suisse y échappe totalement. Ce sont les marchés de la Suisse, et quand les marchés de la Suisse se portent mal, c'est normal qu'il y ait des entreprises qui en souffrent.
Mais est-ce que c'est facile de changer de marché pour une entreprise, de se réorienter, par exemple, vers l'Asie?
Non, pas du tout. Les coûts que doivent subir une entreprise pour s'installer sur un nouveau marché sont très importants. Ensuite, il faut avoir des produits. Ce qui était très intéressant de ce qu'on a entendu précédemment, c'est des entreprises à niche et des entreprises pas à niche. Alors, un tout petit mot d'explication. Une entreprise à niche vend des produits que personne d'autre ne vend ou ne vend pas de la même manière. Donc, elle peut, en gros, fixer les prix qu'elle veut. Une entreprise qui est pas à niche vend des produits qui sont complètement standards. Elle est obligée de les vendre au prix du marché où elle est. Et tout le monde sait, et c'est ce qu'il nous disait d'ailleurs très bien, que les entreprises innovantes sont des marchés, des entreprises à niche, et des autres qui suivent le mouvement se portent moins bien quand la situation devient difficile, mais ça c'est la vie des affaires.
Mais la Suisse, justement, s'est orientée plutôt vers des produits de niche, quand même.
Tout à fait. Et c'est pour ça que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a noirci le tableau de manière très largement excessive et que beaucoup d'entreprises, comme on vient d'entendre, s'en sortent très bien.
Est-ce que, pour celles qui s'en sortent moins bien, pour les secteurs d'activité les plus touchés, les politiques, le pouvoir politique devrait agir, soutenir les entreprises les plus fragiles?
Écoutez, non, sur le plan strictement économique, et en ignorant les aspects sociaux, le chômage, etc., qui sont des aspects importants pour le gouvernement, mais pour les questions économiques, les entreprises qui sont sans produits innovants, qui sont dans des marchés standards, n'ont pas un avenir rose devant elles, quoi qu'elles fassent, et soutenir des entreprises qui n'ont pas d'avenir ne me paraît pas le plus logique. Maintenant, il y a d'autres considérations que les considérations purement économiques, bien sûr.
Et soutenir les entreprises pour l'innovation, Hans Hess, on appelait aux politiques pour soutenir davantage l'innovation. Ça, j'imagine que vous pouvez adhérer.
Oui et non. Il nous a aussi dit que son entreprise avait doublé ses investissements pour l'innovation toute seule sans avoir besoin d'aide. Voilà une entreprise performante qui n'a pas besoin d'aide. Celles qui ont besoin d'aide, c'est déjà un signal qu'elles ne sont pas nécessairement en très bonne forme. Ceci dit, les sommes dont il parle sont des sommes modestes. Il y a des entreprises qui peuvent... ça peut faire la différence pour un certain nombre d'entreprises, donc je serai moins catégorique.
Merci Charles Viploche. Bonne soirée à vous.
Bonsoir.
Les Français fortunés sont toujours plus nombreux à s'expatrier. On va en parler dans un instant avec l'avocat Dominique Laurent. Mais juste avant, arrêtons-nous sur le contexte dans lequel ce phénomène se produit. En plein cœur de l'été, le gouvernement français a voulu aller vite. À peine approuvé par le Conseil constitutionnel, au moins en partie, la loi Macron a été publiée aujourd'hui au journal officiel. Ce texte est censé déverrouiller le pays, favoriser le retour de la croissance. Joël Meskens, vous êtes en direct de Paris. C'est la fin d'un long parcours législatif pour ce texte emblématique. Mais c'est pas la fin des polémiques.
Ben non, c'est effectivement la fin d'un long parcours tumultueux pour cette fameuse loi Macron que le gouvernement avait dû, souvenez-vous, faire passer en force à l'Assemblée nationale pour contourner la colère d'une partie de la gauche qui la jugeait trop libérale. Alors même si quelques articles de cette loi ont été censurés par le Conseil constitutionnel, l'essentiel est sauf et le principal intéressé ne cache pas sa joie. Emmanuel Macron va pouvoir aller vite, notamment concernant deux mesures emblématiques, l'ouverture à la concurrence du transport par car et l'extension du travail du dimanche. Dès aujourd'hui, des liaisons par bus pourront être mises en place entre des villes moyennes et les mairies pourront autoriser les commerces à ouvrir 9 dimanches par an. L'année prochaine, ce sera même 12 dimanches.
Tout cela, Joël, a évidemment un but, favoriser l'emploi. Est-ce que ça va marcher ?
Alors oui, s'il a fait adopter cette loi, c'est pour tenter de faire reculer le chômage, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Il espère créer des centaines, voire des milliers d'emplois avec le transport par autocar, des emplois de conducteurs, mais aussi de techniciens, de constructeurs, etc. Alors cela suffira-t-il à calmer les opposants ? Rien n'est moins sûr. Pour Christian Paul, l'un des chefs de file des socialistes frondeurs, cette loi ne sera pas un levier pour la croissance. Concrètement, plusieurs articles ont été censurés, dont il faudra donc rediscuter. Des articles polémiques sur la publicité pour l'alcool, sur l'enfouissement des déchets nucléaires ou sur l'encadrement des indemnités de licenciement. Alors pour sonder vraiment l'humeur de la gauche, il faudra attendre à la fin du mois. Ce sera la traditionnelle université d'été des socialistes à La Rochelle. Et avant cela, le rendez-vous de Frangy-en-Bresse d'Arnaud Montebourg pour cette fête de la rose qui lui avait valu d'être viré du gouvernement l'an dernier lorsqu'il avait promis une cuvée du redressement à François Hollande. Arnaud Montebourg a convié cette année l'ancien ministre grec Yanis Varoufakis. Les deux hommes devraient réclamer un coup de barre à gauche en France et en Europe.
Merci Joël Meskens.
Et bonsoir Dominique Laurent.
Bonsoir.
Vous êtes avocat fiscaliste au cabinet Laurent et Michaud à Paris. Bon, on va reparler avec vous de ces expatriés, puisque les expatriations parmi les hauts revenus français ont bondi de 40% en 2013, selon les Échos qui se sont procurés les chiffres du gouvernement. Ces riches français qui s'en vont, ils ont peur du coup de barre à gauche qu'évoquait notre correspondante à l'instant ?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont très pragmatiques, qu'ils font le calcul de leurs impôts. Ils anticipent ce qu'ils vont gagner dans les années qui viennent et quand ils sont cadres internationaux ou à possibilité internationale, ils font leur choix en connaissance de cause.
Mais pourquoi ce bond de 40%? Pourquoi sont-ils à ce point-là plus nombreux maintenant?
Alors, ma vision des choses tient à un point de droit fiscal français qui est relativement passé sous silence. C'est l'imposition de tout ce qu'on appelle dans le jargon les incentives, c'est-à-dire tous les à côté des salaires. Vous savez que dans les grosses entreprises, en général, les cadres supérieurs ont non seulement leur salaire, mais des à côté sous forme de stock-options, par exemple, ou divers montages, qui leur permettent d'avoir des suppléments de rémunération parfois très importants, qui dans beaucoup de pays ne sont absolument pas taxés et qui en France sont, pour schématiser, taxés comme des salaires. Et quand vous devenez un cadre dirigeant dans un grand groupe, vous imaginez que dans les 5 années qui viennent, vous allez avoir un complément de rémunération important, par exemple d'1 million d'euros pour les 5 années qui viennent, en France on va vous en prendre plus de la moitié. En Suisse, en Angleterre, en Belgique, on vous en prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et ça peut déclencher un départ.
C'est précisément cette catégorie de personnes qui quittent aussi la France maintenant à cause, comme vous l'expliquez, de cette imposition sur les revenus annexes. Est-ce que c'est pas problématique quand même pour la France de voir tous ces gens, ces hauts cadres, peut-être partir ?
Bien sûr. Alors je ne suis pas un macroéconomiste, je vois les choses par le petit bout de la lorgnette, mais les calculs, nous on fait les calculs. On fait les calculs, on aide les gens à faire leurs calculs, et c'est eux qui prennent leurs décisions. Et les décisions, elles sont de plus en plus nombreuses, et toutes dans le même sens.
Pourtant, la France s'est battue pour faire réapparaître l'argent caché, qui était notamment caché en Suisse, avec des bons résultats. Plus de 40 000 dossiers déposés auprès du fisc français et pas mal d'argent, des milliards qui sont revenus à la surface. Et puis en même temps, on voit que ces riches contribuables quittent le pays. Est-ce que finalement le remède n'est pas pire que le mal ?
C'est pas forcément les mêmes. On mélange un petit peu tout. Vous aviez des gens qu'on sait maintenant très nombreux qui avaient caché des comptes de l'argent sur des comptes suisses. Je dis suisse parce que c'était très souvent suisse. Et cela régularise en masse. vous avez un autre phénomène, qui est celui dont on parle particulièrement aujourd'hui, qui est celui de l'exode de gens qui ne sont pas forcément des gens fortunés, mais des gens qui gagnent de l'argent. Aspects qu'on a tendance à mélanger.
Les forces vives d'aujourd'hui.
On peut gagner beaucoup d'argent, on peut être riche et ne pas gagner beaucoup d'argent. Ceux qui s'en vont maintenant, ce sont souvent des gens qui ne sont pas forcément très riches, mais qui gagnent beaucoup d'argent. Et c'est, je pense, économiquement bien plus grave.
On parle beaucoup d'installations au Portugal, au Maroc. Est-ce que la Suisse perd de son attrait pour ces gens ?
Oui, peut-être un peu, mais c'est pas le même objectif. Vous voyez, d'abord, sans vouloir être désagréable, il y a du soleil au Portugal et au Maroc, mais ce sont des destinations qui vont attirer surtout des retraités. Hein. Vous savez que le régime particulièrement du Portugal est réservé aux retraités. La Suisse présente beaucoup d'attraits du point de vue français, notamment l'exonération des plus-values sur titres. Également le fait d'être une grande place internationale, ce que n'est pas le Portugal et ce que n'est pas le Maroc. Donc, du point de vue français, la Suisse reste un pôle attractif.
Voilà, où, je vous rassure, il y a aussi beaucoup de soleil, il peut faire extrêmement chaud, on en a la preuve aujourd'hui. Merci Dominique Laurent, bonne soirée.
Bonne soirée.
Le jeune Tessinois parti en Syrie pour combattre l'organisation État islamique et arrêté au début de l'année à son retour en Suisse a pu récupérer ses documents. Il n'a plus non plus l'obligation de se rendre chaque semaine dans un poste de police. Pietro Bugnon, il est donc libre de quitter la Suisse s'il le souhaite.
Oui, mais son avocat que nous avons contacté cet après-midi nous assure qu'il ne le fera pas. Il ne repartira pas en Syrie dans les rangs de la milice chrétienne syriaque. Ce serait complètement absurde, dit-il. Petit retour en arrière. Ce combattant était sergent dans l'armée suisse. Il y a 3 ans, il rejoint la Syrie pour combattre aux côtés des chrétiens persécutés par l'État islamique. Problème, le code pénal militaire interdit à tout citoyen suisse de prendre les armes dans les rangs d'une armée étrangère, à moins d'en être autorisé par le Conseil fédéral. Ce délit est passible d'une peine de 3 ans de prison maximum. Alors, à son retour en Suisse, au début de l'année, ce Tessinois est menotté à Bâle. On lui confisque ses papiers et on l'oblige à se présenter à la police une fois par semaine.
Sauf qu'il y a quelques semaines, un recours contre le prolongement de ces mesures préventives est accepté.
Oui, c'est ce qu'a révélé hier soir la télévision tessinoise RSI. Mais si cet homme, âgé aujourd'hui de 33 ans, peut se déplacer comme il le veut, la procédure pénale qui le concerne court toujours. La justice militaire que nous avons contactée confirme la poursuite des investigations, mais elle n'en dira pas davantage. Ce qui n'est pas encore clair non plus, c'est si ce Tessinois sera inquiété pour les actes qu'il a commis en Syrie. Son avocat assure que non. Pourtant, sur notre antenne, ce jeune assurait avoir tué beaucoup de combattants de Daesh. Là, la justice militaire se refuse à tout commentaire.
Pietro Bugnon, en direct de Berne. Nicolas Mattenberger, bonsoir. Vous êtes avocat, pas l'avocat de ce jeune Tessinois, mais avocat. Vous êtes aussi député socialiste au Grand Conseil vaudois. On lui a donc rendu ses documents d'identité. Ça veut dire qu'il n'est pas si dangereux que ça ?
Alors écoutez, là je pense qu'on est dans le cadre de l'enquête et des mesures de substitution à la détention préventive, où on a estimé qu'il n'allait très certainement pas retourner à l'étranger combattre et donc qu'il allait pouvoir se présenter à la justice suisse puisqu'on est dans le cadre donc d'une mesure d'enquête où il n'a pas encore été jugé coupable d'un délit. Donc le principe veut normalement que la personne soit en liberté et si elle présente effectivement des risques de fuite, on peut prendre un certain nombre de mesures telles que celles qui consistent à conserver le passeport, à l'interdire de voyage à l'étranger, ou alors le cas le plus extrême, c'est la détention préventive.
Mmh. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de risque qu'ils repartent ? On n'en sait rien, non ?
Oh non, on n'en sait rien du tout. Je pense que ça, c'est une appréciation de la justice. Vous avez indiqué tout à l'heure que cette personne a gagné un recours, donc il faut croire que les autorités d'instruction pénale, elles, estimaient qu'il existait un risque que cette personne quitte la Suisse pour se rendre nouveau à l'étranger et ne se présente pas devant les autorités pénales, ce qui n'a pas été le cas de l'autorité de recours qui, sur la base très certainement d'éléments contenus dans le dossier, ont jugé que ce risque de fuite était très minime.
Alors, le code pénal militaire interdit à tout citoyen suisse de prendre prendre les armes pour un autre pays, sauf autorisation expresse du Conseil fédéral, ce que nous disait Pietro Bugnon tout à l'heure, délit qui est passible d'une peine de 3 ans de prison, ça va être appliqué?
J'espère que ça va être appliqué. Alors que se pose encore la question par rapport à cette personne de sa nationalité, puisque si on a une autre nationalité que le pays à qui on appartient au niveau national fait lui-même partie du conflit, à ce moment-là, on n'est pas puni ça. Mais d'après les informations que j'ai, cette personne serait turque. La Turquie, en tout cas, ne soutient pas directement à travers ses forces des groupes chrétiens. Donc, à mon avis, il faut effectivement qu'il y ait une peine qui soit appliquée dans ce cas. Alors, on a des précédents qui sont des jeunes Suisses qui sont rendus en Syrie pour combattre aux côtés de Daesh ou faire partie d'organisations de type terroriste ou criminel. On a vu que les peines auxquelles elles ont été condamnées en Suisse n'ont pas été très importantes par rapport à des cas, par exemple, français ou anglais.
Alors, il y a la question de la cause aussi, hein. Là, il est allé se battre contre une organisation considérée comme terroriste. Est-ce que la justice tient compte de ça?
Voilà, de nouveau, c'est au juge de tenir compte en fonction de la gravité de l'acte. Également.
Mais ça peut être un facteur.
La personnalité de la personne de décider si oui ou non il y a certains éléments excusables, puisque le juge a une possibilité de fournir une peine qui va de 0 à 3 ans, donc c'est à lui, au moment où il fixe cette peine, de juger de la culpabilité de la personne et également de la peine qu'il y a lieu ou pas de prononcer en fonction des fautes commises. Alors c'est vrai que moi, personnellement, je trouve qu'on est par rapport aussi bien à des personnes qui se rendent pour soutenir des mouvements tels que Daesh ou d'autres mouvements de guerre, parce que comment définir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, du moment où il y a des actes violents qui sont commis, eh bien je trouve qu'on est pour l'heure assez, laxiste en matière de poursuite pénale, et c'est des peines très faibles qui ont été données à ces personnes, avec à mon avis aussi un manque de dissuasion pour d'autres jeunes qui désiraient se rendre dans ces pays.
Quels que soient les objectifs, hein, finalement.
Exactement, ouais. Puis après alors se pose effectivement encore toutes les autres questions que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que cette personne a commis des crimes de guerre ou pas?
Justement, ce milicien tessinois, il avait avoué, notamment sur notre antenne, avoir tué beaucoup de personnes appartenant au groupe terroriste État islamique. Ce genre de déclaration, on les traite comment juridiquement?
Il fait une sorte d'aveu et donc, pour ma part, je suis étonné que le ministère public de la Confédération, parce que dans ce cas, c'est au ministère public de la Confédération, s'agissant des crimes de guerre qui sont punis notamment par les articles 264 et suivants du Code pénal, d'instruire l'affaire et de déterminer si oui ou non de tels crimes ont été commis. Et puis l'article 264C précise qu'il peut y avoir le meurtre, la prise d'otage, tout en précisant que d'aider ou de combattre aux côtés de forces armées dans le cadre d'un conflit ne constitue pas forcément une infraction commise par le droit pénal au niveau des crimes de guerre. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une personne qui nous dit « j'ai tué plusieurs personnes », on devrait tout de même s'intéresser dans quelles circonstances ces meurtres ont été commis et savoir si oui ou non ils doivent être poursuivis selon le droit suisse. Alors la difficulté, c'est effectivement d'établir les faits, puisqu'il appartient à l'autorité pénal d'établir ces faits. Cela étant dit, après de telles déclarations, il m'apparaît pour le moins normal, et dans tous les cas, ça devrait intervenir, qu'une procédure formelle soit ouverte contre cette personne pour déterminer si des crimes de guerre ont été commis par celle-ci lorsqu'elle se trouvait en Syrie.
Nicolas Mattenberger, merci beaucoup d'avoir été quelques minutes avec nous. Bonne soirée.
Bonne soirée aussi.
Forum, Éric Guevara-Frey, Sylvie Belzer.
Il est 18h29. Hier soir, aux États-Unis, pendant que les candidats à l'investiture républicaine pour la présidentielle débattaient à la télévision, un sénateur démocrate influent publiait un communiqué en forme de poignard dans le dos du président Obama. Le New-Yorkais Chuck Schumer annonçait qu'il s'opposerait à l'accord sur le nucléaire iranien. Bonsoir Philippe Reva.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Washington. Cette annonce de Chuck Schumer, c'est une défection de poids dans le camp démocrate qui illustre bien les difficultés du président Obama à vendre cet accord auprès des parlementaires.
Oui, le combat n'est pas encore gagné pour Obama. L'annonce de Schumer n'est pas en soi une surprise. C'est un élu très proche des préoccupations israéliennes, un faucon qui avait approuvé la guerre en Irak. Il rejoint le camp des élus démocrates de la région new-yorkaise, du sud de la Floride, où vit une forte communauté juive. Mais Chuck Schumer est pressenti, lui, pour être le futur leader démocrate au Sénat. Sa décision a donc soulevé d'abord beaucoup d'émotions, et puis les contre-attaques, les menaces de mouvements de gauche du Parti démocrate, et plus intéressant, d'anciens conseillers d'Obama sur Twitter, qui relèvent qu'en se mettant du côté des républicains, contre Obama, contre Clinton, Schumer a perdu en quelque sorte la légitimité de diriger les démocrates au Sénat, mais on n'en est pas encore là.
Mais est-ce que son opposition montre ou signifie que l'accord est en danger ?
Je dirais plutôt non. D'abord parce que pour surmonter le veto d'Obama, il faudra les 2/3 des deux chambres. Les calculs montrent qu'Obama peut toujours y arriver, réunir assez de démocrates. Et puis dans son communiqué, Schumer précise qu'il ne fera pas pression sur ses collègues de parti pour qu'ils votent comme lui. On pourrait même inverser le raisonnement. C'est peut-être parce qu'il sait que l'accord va passer que Schumer peut se permettre de voter non. Il donne un signal à ses électeurs et puis en même temps, il sait ou il espère peut-être que ça ne met pas en péril l'ensemble du projet.
Reste que la défense de cet accord se révèle plus ardue que prévu pour Barack Obama et ses ministres.
Eh oui, Dieu que c'est fastidieux. On a vu John Kerry souffrir durant des heures, presque physiquement, face aux questions des commissions parlementaires. Et même les démocrates qui sont favorables ne sautent pas d'enthousiasme. Les républicains, eux, s'emparent bien sûr de tous les arguments. Le général iranien Soleimani, qui voyage librement alors qu'il est responsable de la mort de centaines de soldats américains en Irak. L'argument des centaines de millions de dollars débloqués pour l'Iran, qui pourrait financer le terrorisme. Obama lui-même offre parfois le flanc à la critique, lorsqu'il affirme par exemple que les républicains américains sont dans le même camp idéologique que l'aile dure des mollahs iraniens.
L'opposition est vive au Congrès, mais aussi dans la population.
Oui, les derniers sondages donnent des chiffres très mauvais. 57% des Américains seraient contre cet accord. Ça renforce la pression sur les élus démocrates. Le vote doit avoir lieu à la mi-septembre. Alors d'ici là, un événement international peut suffire à faire basculer la majorité au Congrès. Ça va se jouer à peu de choses. L'été sera tendu pour Barack Obama. Pas de quoi l'empêcher de prendre ses 2 semaines de vacances. Il s'envole tout à l'heure pour les délicieuses plages de l'île de Martha's Vineyard.
Philippe Reva en direct de Washington.
On revient maintenant sur les drames de la migration, les images du chaos à Calais ou les nouvelles bouleversantes qui nous viennent de Méditerranée où des centaines de migrants ont encore perdu la vie cette semaine donnent l'impression d'une vague migratoire sans précédent. Alors est-ce que c'est vraiment le cas ? La Suisse et l'Europe ont pourtant connu d'autres pics migratoires. Faut-il dès lors relativiser l'importance de ce phénomène ? Nous allons poser la question à Étienne Piguet, professeur à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel, spécialiste des flux migratoires et des frontières. Bonsoir Étienne Piguet.
Bonsoir.
Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un pic migratoire sans précédent ?
On est à un haut niveau de migration, c'est très clair, mais pas sans précédent. On a connu des migrations de centaines de milliers de personnes à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Pour remonter assez loin, lors de la crise hongroise en 1956, on a eu environ 150 000, très approximativement, personnes qui ont quitté la Hongrie vers l'Europe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à des niveaux supérieurs. On a eu 625 000 demandes d'asile en Europe l'année passée. On pourrait dépasser 700 000 cette année. Donc on est au-dessus de ces chiffres. Mais finalement, c'est des chiffres qu'on a eux aussi connus dans le passé. Au tout début des années 90, par exemple, on a eu 700 000 demandes d'asile approximativement. C'était la crise en Bosnie, c'était la fin du régime de Ceausescu en Roumanie. Donc, c'est pas complètement nouveau. Et puis encore, au début des années 2000, on a eu environ 500 000 demandes d'asile qui ont été déposées en Europe. C'était l'époque de la crise du Kosovo. Mais il y a quand même des différences actuellement, dans le sens où on a des crises qui sont très diversifiées, donc qui sont assez problématiques du point de vue de la réponse que l'Europe peut donner.
Y a un cumul des crises. Il y a les conflits armés, mais il y a aussi les migrants économiques. Tout ça se conjugue pour donner cette impression de pic migratoire.
Alors, les crises sont bien réelles. C'est pas tellement la question d'immigration économique qui est en jeu ici. C'est plutôt la migration de la violence. On n'a peut-être pas des gens qui sont persécutés personnellement, mais on a effectivement des populations entières en Érythrée qui sont soumises à des conditions de vie qu'elles ne peuvent pas accepter. Et ça, c'est des situations qui sont problématiques parce que finalement, on ne sait pas tellement quelle réponse on peut apporter à ce type de demande. Et puis, les perspectives de retour sont assez, pour le moins, lointaines, on va dire. Alors que c'est vrai que les crises du passé, celles que j'évoquais, les 700 000 du début des années 90, assez vite, la crise en Bosnie s'est interrompue. Assez vite, les requérants d'asile roumains sont retournés en Roumanie. Donc, elles se sont résorbées d'elles-mêmes. Aujourd'hui, on a une crise qui est probablement extrêmement plus profonde.
Et là, une des différences aussi, c'est beaucoup de migrants venus de pays tiers, extérieurs à l'Europe.
On a une globalisation de l'asile qui correspond aussi à la globalisation des moyens de gagner l'Europe. Hein. Il est vrai qu'il est quand même possible aujourd'hui de venir tenter sa chance en Europe, au péril de sa vie, mais enfin de la tenter tout de même, alors qu'il y a 50 ans, c'était pas envisageable pour des personnes qui habitaient à plus que quelques centaines ou milliers de kilomètres d'ici.
Et donc la crise migratoire actuelle, beaucoup plus compliquée à résoudre, elle s'installe dans la durée, si on vous comprend bien?
Elle s'installe dans la durée, ce qui ne veut pas dire que la résolution de certaines crises, qu'on peut quand même toujours espérer, qui peut intervenir finalement assez vite, hein, l'expérience le montre, hein, la guerre au Liban qui semblait infinie, tout à coup a pris fin, et les requérants d'asile libanais, qui étaient un grand problème en Suisse, ont quasiment disparu. Donc on peut espérer, on peut être optimiste, ça peut tout à coup tourner, on peut avoir une chute très rapide des demandes d'asile, encore une fois parce qu'elles répondent à des crises humanitaire bien réel. Mais en même temps, malheureusement, réalistement, c'est vrai qu'il y a toute une série de foyers de crise actuellement dont on ne voit pas tellement la fin avant plusieurs années.
Mmh. Est-ce qu'il y a aussi plus de drames avec la migration actuellement? On voit ces bateaux qui chavirent, ces images à Calais. C'est frappant quand même. Est-ce que ça, c'est quand même plus dramatique que par le passé?
Là aussi, on a connu des précédents terribles, hein, les boat people indochinois à l'époque de la guerre du Vietnam ont sombré en mer et ont été un problème humanitaire absolument catastrophique aussi. C'est vrai que la crise actuelle en Méditerranée est particulièrement terrible, particulièrement préoccupante. Et de ce point de vue-là, là aussi, on a beaucoup de peine à apporter une réponse, d'autant plus que l'Europe est vraiment directement interpellée. C'est à ses portes.
Et justement, Étienne Piguet, une dernière question sur la réponse. Est-ce qu'elle est différente, la réponse qui est apportée aujourd'hui par l'Europe, de ce qu'elle a pu être dans les crises précédentes? Est-ce que vous voyez là une différence?
Il n'y a pas de différence fondamentale. On a dû batailler fortement pour arriver à accepter les réfugiés indochinois, pour accepter de mettre en place des sauvetages en mer pour les réfugiés indochinois. Mais c'est vrai que le contexte de la guerre froide était peut-être plus favorable au consensus. Aujourd'hui, on n'a malheureusement pas encore en Europe un consensus pour une politique commune d'asile. Mais en même temps, les choses avancent lentement, trop lentement, mais elles avancent. On a quand même des propositions de la Commission européenne qui posent les bases d'un tel consensus.
Étienne Piguet, merci. Vous êtes spécialiste des flux migratoires et des frontières.
Une femme blanche qui s'est fait passer pour noire pendant des années, c'est l'histoire de l'américaine Rachel Dolezal, militante des droits civils, née de parents blancs, mais qui a grandi avec des frères et sœurs adoptifs noirs. Sa situation a déclenché une vive polémique aux États-Unis ces dernières semaines, polémique qui conduit à s'interroger sur la notion d'appartenance raciale. Dont acte avec André Langanet, généticien, professeur honoraire à l'unité d'anthropologie de l'Université de Genève. Première question, comprenez-vous qu'on puisse se revendiquer noir alors qu'on est blanc? Qu'est-ce que ces notions recouvrent?
Alors écoutez, je crois qu'on va prendre un exemple extrêmement simple que tout le monde connaît, qui est celui du président Obama. Quand il a été élu, plein de vents se sont réjouis, ont été consternés que les États-Unis aient un premier président noir. Or, M. Obama est né d'une mère blanche et d'un père kényan. C'était donc un noir et blanc. Du point de vue génétique, du point de vue de la biologie, M. Obama n'est pas plus noir que blanc. Il est autant blanc que noir et pas plus. Alors, pourquoi le qualifie-t-on de noir aux États-Unis? On le qualifie de noir à cause de la théorie de la goutte de sang, qui est une théorie qui date de la ségrégation raciale aux États-Unis, qui est encore très pratiquée par les gens du Ku Klux Klan et quelques autres du même acabit, qui est une théorie qui vise à préserver la pureté, entre guillemets, de la race blanche. Pour en finir avec cette absurdité, la Cour suprême des États-Unis, au début des années 2000, a pris une décision étonnante de bon sens. Elle a décidé que désormais, comme les situations de métissage devenaient très compliquées aux États-Unis, désormais on pourrait déclarer sa race. Et on aurait le droit d'en déclarer plusieurs. Autrement dit, en théorie, d'après cet arrêt de la Cour suprême, M. Obama pourrait se déclarer noir et blanc.
Seulement, il y a un problème. C'est que la race aux États-Unis est marquée sur les papiers. Et sur les papiers de M. Obama, il est marqué qu'il est noir. Donc si aujourd'hui, selon cet arrêt, il se déclarait noir et blanc, il serait obligé de changer de race. Il deviendrait un transracial. Alors je pense que cette militante a voulu jouer là-dessus pour faire remarquer que, à partir du moment où la race est une fausse que l'on déclare, on a le droit d'en changer. En particulier si, par exemple, on a des informations nouvelles sur ses origines.
Mais ça, c'est très mal accepté, y compris d'ailleurs par la communauté noire qui l'a rejeté, cette personne qui veut appartenir à cette communauté-là.
Le racisme est la fausse la mieux partagée entre les races humaines, y compris dans les organisations soi-disant antiracistes. Alors, évidemment, de la loi qui établit un principe raisonnable, à savoir constater que la race est une affaire de définition socioculturelle et pas du tout une affaire de biologie, parce que la biologie est bien plus compliquée que des appartenances à des catégories en tiroir qui se recouvrent les unes les autres. Bien entendu, il y a très loin de la théorie à l'application dans un pays où on a encore un petit peu trop de policiers blancs, entre guillemets, définition sociale, qui tire sur des gamins noirs, entre guillemets, définition sociale aussi.
Justement, André Langanet, qu'est-ce qui constitue, vous l'avez déjà un petit peu abordé, mais qu'est-ce qui constitue la notion de race? Est-ce que c'est une construction sociale et culturelle, ou est-ce qu'on peut vraiment se fonder sur une réalité physiologique?
Alors, il y a plein de différences biologiques entre les humains. Dire qu'on ne peut pas les classer en race, ce n'est pas évidemment pas nier qu'il y en ait qui soient grands, qui soient petits, qui soient foncés, qui soient clairs, qui soient gros, qui soient minces, etc. On n'arrive pas à définir des types puisque les populations sont très diverses. C'est entre les gens d'une population qu'il y a des grands, des petits, des plus clairs, des plus foncés. Chez les Européens, on n'est pas habitué à le voir parce qu'on a moins de diversité de couleurs que dans les autres populations. Mais si vous allez en Afrique ou si vous allez chez les Papous ou ailleurs, on a des gens qui vont du clair au foncé sans forcément qu'il y ait eu des métissages avec des Européens avant. Alors la race, c'est un mythe socioculturel qui coûte très cher, qui a valu énormément de peine, qui a justifié les horreurs de l'esclavage, des ségrégations raciales, de celles qui continuent aujourd'hui, en Palestine par exemple, et c'est un concept dont on a intérêt à faire usage avec modération.
On voit que certains changements de race ou des tentatives de changement de race sont mieux tolérés socialement. Il est assez courant pour des Asiatiques de prendre une apparence un peu plus occidentale. Et puis, est-ce que, à contrario, c'est beaucoup moins compréhensible qu'une femme blanche veuille peut-être devenir noire? Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures pour ces changements de race?
Alors vous allez dire ça à toutes celles qui sont en train de se rendre le plus foncé possible au bord du lac en ce moment. On a un culte de la différence quelque part dans notre inconscient qui fait qu'on cherche souvent à ressembler aux autres que l'on envie. Et
vous diriez, il n'y a pas de différence, ça va dans les deux sens.
Ça va dans les deux sens, bien sûr. J'avais fait une expérience avec des collaborateurs il y a quelques temps sur des étudiants de l'université. On leur demandait de choisir les couleurs de peau qu'ils auraient préférées sur des gammes de pastilles de couleurs. Alors figurez-vous que les uns comme les autres choisissaient des couleurs qui n'existaient pratiquement pas dans la population locale helvétique autochtone.
C'est-à-dire plus foncées, en fait.
Ils choisissaient des couleurs bien plus foncées. Et puis, on leur demandait de choisir et pour eux et pour leurs partenaires. En général, ils choisissaient des couleurs plus foncées pour leurs partenaires, avec des fois ce commentaire quand même extraordinaire. Oui, moi je préfère ne pas être aussi foncé parce que j'aurais peut-être des ennuis. Alors, c'est une anecdote par rapport à tout cela, mais c'est dire que les préjugés, si les orientales se sont fait débrider les yeux, c'est parce qu'il y avait un modèle de la star occidentale dans les films qu'ils regardaient.
Alors ça change aussi avec l'évolution de la société, la mode qui est au goût du jour, c'est en fonction
bien sûr,
de ça en fait.
Ça peut changer. Bon, moi j'appréciais beaucoup quand aux États-Unis il y avait le style afro où Angela Davis et compagnie préféraient avoir une touffe de feu très libre plutôt que les abominables perruques qui ont rendu toutes les grandes cantatrices de jazz chauves à 40 ans.
André Le Gannet, on voit de plus en plus dans les médias apparaître des personnalités transgenres, donc qui changent de sexe ou de genre, ou qui adoptent oui. l'apparence du genre qui n'est pas leur. Est-ce que vous avez l'impression que quelque part, c'est, au fond, c'est mieux toléré ou ce sera mieux toléré que la transracialité, pour reprendre le mot qu'on utilisait en début d'entretien?
J'espère que la transracialité sera tolérée. Vous avez quand même, parmi les babacools, vous en avez quand même beaucoup qui se font des adjonctions de cheveux à l'afro. C'est quand même un style qui se développe. Les émules de Bob Marley en Valais ou en canton de Vaud, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Vous allez voir au festival à Nyon et vous aurez des surprises. On a plein de choses qui sont inspirées par ces modes du monde, ces musiques du monde. Ces références à des cultures, je ne parle même pas de ceux qui sont fascinés par l'Inde et puis qui font faire des pèlerinages et puis qui ont des tentatives de s'identifier à des populations qu'ils admirent. Et puis si, après tout, on commence de plus en plus à admirer les autres, c'est peut-être un début de la paix que l'on voudrait entre les hommes.
Le généticien André Le Gannet, dont nous avons enregistré l'entretien cet après-midi.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement de Genève, en raison de la densité de trafic, la circulation se fait en accordéon entre Perly et la douane de Bardonnay en direction de la France. Sur l'axe Genève-Aoste, un temps d'attente d'une heure est annoncé au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. Les fêtes de Genève, c'est bientôt terminé. Le feu d'artifice de demain marquera la fin des festivités. Elles ont débuté il y a 10 jours, sans compter les préfêtes qui, elles, ont commencé à la mi-juillet. Les attractions, les concerts et autres forains ont envahi la rade depuis presque un mois et ce n'est pas du goût de tout le monde. Les autorités genevoises et Genève Tourisme planchent d'ailleurs depuis des années sur la refonte de l'événement, mais des citoyens ont pris le devant. Ils ont lancé une initiative populaire communale en avril dernier. Elle demande des fêtes plus courtes, plus axées sur la culture et en partie délocalisées sur la plaine de Plainpalais. Deux invités nous rejoignent au studio de Genève. Jean Barthes, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous qui êtes à l'origine de cette initiative. C'est vous qui avez déjà réussi aussi à faire bannir la fumée passive et les chiens dangereux aussi par voie d'initiative populaire. À vos côtés, Frédéric Hall, bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Député PLR au Grand Conseil, président de ces mêmes fêtes de Genève entre 1997 et 2000. C'est vous aussi qui allez diriger la prochaine fête des vignerons. Alors, Jean Barthes, limiter l'impact des fêtes sur la rade, une semaine de festivités au maximum et des forains qui quittent les quais pour reprendre leur quartier sur la plaine de Plainpalais, c'est pas un peu une déclaration de guerre aux fêtes de Genève ?
Non, pas vraiment, d'autant que c'est pas un problème personnel. Je rappelle quand même que les fêtes de Genève, il y a quelques décennies, c'était 3 jours de festivités, pas plus. En ce qui concerne l'initiative, je me fais en quelque sorte le porte-parole des habitants, notamment des eaux-vives, mais également des paquis, qui subissent ces fêtes, c'est-à-dire le bruit, les incivilités, les dégâts, depuis de nombreuses années, qui en ont assez. Il faut dire à ce sujet que 2 pétitions ont été déposées en 2002 et en 2010, munies de plusieurs centaines de signatures. Elles sont restées lettres mortes. Vous avez tout à l'heure parler d'une commission censée plancher sur la refonte des fêtes de Genève. Notre première intention n'était pas de lancer une initiative, mais de rencontrer les gens de cette commission et de faire certaines propositions. Et puis, quand je me suis renseigné au plus haut niveau, on m'a dit qu'il n'y avait jamais eu de commission, qu'il n'y en aurait probablement jamais. Et ça nous a décidé de lancer cette initiative.
Ça va trop lentement à votre goût. On reconnaît qu'il y a quelque chose à revoir, mais ça ne va pas assez vite. En même temps, vous le dites, il y a quelques décennies, ça durait 3 jours. Aujourd'hui, ça dure un mois quasiment avec les préfètes. C'est que c'est un certain succès. Ce n'est pas pour rien.
Oui, c'est certainement un succès pour certains commerçants, pour certaines personnes qui ont des stands. Je sais que ça marche très bien pour certains d'entre eux. L'ensemble des commerçants de la rade est plutôt impacté négativement par les fêtes de Genève. Mmh. Il suffit de leur demander.
Mais ça veut dire que la population y va, si les gens qui ont des stands sur place sont contents. La population répond présent.
Une certaine population, probablement, oui.
Frédéric Hall, ces fêtes, elles durent trop longtemps, nous dit Jean-Barc, c'est trop de nuisances. Et ces fêtes, c'est aussi un peu devenu un bric-à-brac. C'est vrai que ça va de la Lake Parade aux artistes un peu sur le déclin. Il y a le slow-up, les courses de garçons de café, les carousels. C'est un peu devenu un grand fourre-tout,
Bon, d'abord, je comprends l'initiative d'habitants qui puissent être ennuyés par des nuisances sonores. C'est tout à fait compréhensible. Mais force est de constater que les fêtes de Genève ont été créées en 1947, toujours au bord du lac, ça fait bientôt 70 ans. Il y a toujours eu énormément de monde. C'est un véritable rendez-vous des Genevois estival. Et quand vous allez vous promener, par exemple, au jardin anglais, il y a 90% d'habitants de Genève. C'est une vraie fête populaire. Alors, où je rejoins l'analyse de Jean Barthes, c'est peut-être sur l'ambition culturelle. Il faudrait peut-être qu'il y ait une ambition culturelle un peu plus élevée, qui est très probablement liée à un budget. Parce que, comme vous le savez, organiser une manifestation, ça coûte beaucoup d'argent. La ville le fait dans certaines de ses manifestations. Une qui est d'ailleurs très populaire, qui s'appelle les Fêtes de la Musique, qui coûte 4 millions aux contribuables genevois. Donc, ça coûte 4 millions à la ville de Genève pour 3 jours. Les Fêtes de Genève, la ville de Genève met 0 francs de subvention. Donc, on est dans une problématique probablement également budgétaire.
Mais l'ambition culturelle, c'est au fond pour leur donner du sens. C'est quoi le sens des Fêtes de Genève aujourd'hui, Frédéric Hall?
Alors, à l'époque, bon, moi, je n'y travaille pas depuis, ça fait 15 ans que je n'y suis plus. Mais les fêtes, à l'époque, c'était les fêtes du lac, les fêtes pour fêter l'ouverture des terrasses et la venue des beaux jours. Et vous avez raison, à l'époque, c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est moi qui les ai amenés à 10 jours. Parce que toutes les fêtes au niveau international, au niveau benchmark, si vous voulez réaliser un budget suffisant pour avoir justement un peu d'ambition culturelle, c'est plutôt sur 2 week-ends, donc c'est plutôt 10 jours. Donc 10 jours, je dirais, c'est une bonne durée pour tant au niveau accessibilité pour les visiteurs, compréhension du programme, et également une possibilité pour les habitants de la supporter. Parce que c'est clair que si vous avez une fête, moi je rentre d'Espagne, j'étais à La Corogne, là-bas, pendant un mois, c'est la fête tous les soirs. Personne ne se pose la question si c'est bien ou si c'est mal. Eux, ils sont très contents parce qu'en fait, le but d'une fête, c'est de sortir les gens de chez eux. Il faut absolument éviter de rester devant sa télévision. Sortez, venez, mettez-vous ensemble. Et je crois que les Fêtes de Genève y répondent. Mais il est vrai que l'ambition culturelle, là, il faudrait qu'ils aillent un petit peu plus loin.
Jean Barthes, au fond, est-ce qu'il faudrait aussi mieux les encadrer pour limiter les nuisances, limiter les dégâts?
Ça, c'est absolument certain. Les gens dans les quartiers se plaignent d'incivilité, de nuisances, de dégâts, etc. Et je pense qu'il faudrait vraiment faire un effort et en demandant des fêtes qui durent une semaine maximum, en tout cas, on est sûr de réduire ces nuisances.
Une semaine, Frédéric Hall nous dit c'est pas assez. On voit que en comparaison internationale, c'est toujours une dizaine de jours, sinon les gens viennent pas. Vous, ce que vous voulez par contre de ces fêtes, c'est aussi garder les feux de clôture. Est-ce qu'on va pas revenir à une fête un peu élitiste finalement, où seuls les gens qui ont les moyens de se payer une place pour voir les feux y vont, et puis finalement la population, elle va plus se rendre sur les quais?
Bon, la grande majorité des visiteurs voient les feux gratuitement. Il y a 15% des visiteurs qui payent l'entrée. Et puis, alors, il est important de rappeler que les feux ne coûtent rien aux contribuables. Mm-hmm. C'est complètement payé par l'Office du tourisme.
Mais si vous avez une mauvaise place, vous ne voyez pas grand-chose. Jean Barthes.
Oui, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure à propos de la durée des fêtes. Quand les fêtes duraient vendredi, samedi et dimanche, les Genevois s'y retrouvaient. C'était très convivial et le titre de notre initiative comporte le mot convivial. On aimerait revenir à un concept beaucoup plus convivial, dans le sens par exemple des fêtes de la cité à Lausanne ou de la fête de la musique, qui ont toutes les deux ce côté convivial.
Frédéric Hall, comment les rendre convivial dans le sens où l'entend Jean Barthes?
Alors, si j'interprète ce que dit Jean Barthes en faisant allusion à la fête de la musique, c'est 4,5 millions de budget pour 4 jours. Voilà, donc c'est assez simple. Donc c'est une équipe de programmateurs. Donc c'est complètement différent. Là, c'est vraiment une fête populaire, je dirais. Moi, j'aurais rajouté dans son titre.
C'est une fête cheap, en fait, pas chère, parce que vous ramenez toujours ça à la question de budget.
C'est un petit peu le problème. Je crois que c'est le point. Enfin, il faudrait demander à l'Office du tourisme, mais à mon avis, c'est leur problème majeur, quoi. Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais à mon avis, ils devraient peut-être dire, écoutez, nous, l'Office du tourisme, on fait le feu d'artifice. Point barre. Et puis la ville de Genève, ou bien des comités comme veut faire Monsieur Barthes, faites-vous les fêtes de Genève. Peut-être ça serait plus simple.
C'est une fête à bon prix, hein. Finalement, c'est pour ça qu'on peut pas avoir une offre culturelle qui est tellement exceptionnelle. En même temps, il y a plein de concerts d'animation qui sont gratuites. C'est aussi pour une fois quelque chose qui se fait pour les jeunes à Genève. Et ils répondent présents, Jean Barthes. On peut pas avoir Genève qui reste comme une ville musicale s'amuser toute l'année, un peu ce qu'elle est le reste du temps.
Oui, alors plus qu'une fête, c'est surtout un champ de foire, une foire à la saucisse, une grande beuverie. voilà, je crois que l'ensemble des citoyens genevois partagent ce point de vue. J'aimerais dire à ce sujet que dans notre campagne, qui a été très brève, hein, on a fait une campagne de 2 mois pour la récolte de signatures, à peu près 20 à 25% des gens qui ont signé nous ont spontanément fait part de leur souhait de voir ces fêtes disparaître complètement. Alors, c'est évidemment pas ce que nous proposons. La grande majorité des gens se sont prononcés, alors, d'une manière très catégorique pour la suppression de la Lake Parade. Voilà, alors je pense que plutôt que de débattre longuement de ces sujets, il suffit de donner simplement la parole aux électeurs de la ville de Genève, c'est eux qui décideront en fin de compte.
Il faut faire peut-être attention avec les comités qui sont
Frédéric
composés.
Cole.
Oui, il faut faire attention avec les comités qui représentent les habitants, qui représentent les quartiers, etc. Quand on organise une fête, prenez par exemple à Paléo, c'est des professionnels qui organisent. On ne peut pas organiser une fête avec des habitants. On doit faire très attention à ne pas ennuyer les riverains, mais ce n'est pas eux qui peuvent l'organiser. Chacun son métier, quoi. Donc là, je crois qu'il faut faire attention. Et puis, j'aimerais quand même revenir sur un des points qui m'a fait vraiment peur dans cette initiative, c'est le déplacement de la fête foraine à plein palais.
Pourquoi ?
Ça veut dire que
mais c'est
les
faux,
habitants...
excusez-moi, non, c'est absolument faux.
C'est marqué là. Hein.
Mais non, on dit simplement qu'une partie des forains soit sur la plaine de plein palais, que la rade ne soit pas complètement défigurée par les manèges, et ça pour une raison assez simple, c'est que non seulement les Genevois peuvent pas profiter de la rade à la meilleure période de l'année, mais les touristes qui viennent quelques jours pour voir Genève, ils voient un champ de foire au lieu de voir la rade.
Monsieur Alors, Barthes, c'est pas moi qui ai écrit, c'est non. vous qui l'avez mis. Espace destiné aux forains se tiennent prioritairement sur la plaine de plein palais. C'est vous qui l'avez écrit.
Mais
c'est
non, on n'a pas dit exclusivement, on a dit prioritairement, d'autant que sur la plaine de plein palais, les forains se branchent sur l'électricité.
Mais il y a aussi les habitants.
Alors que sur la rade, ce sont des générateurs qui fonctionnent au diesel, qui contribuent à la pollution et au bruit. Voilà.
Mais Frédéric Cole, pourquoi ça vous fait tellement peur, à vous, qu'on en déplace une partie, ou prioritairement, sur la plaine de plein palais?
Deux choses. D'abord, je comprends qu'on veuille venir au secours des habitants, des paquis et des eaux vives. Mais pourquoi, alors, tout à coup, vouloir mettre les nuisances aux habitants de plein palais? Là, je comprends pas.
Et alors, si vous avez bien lu, excusez-moi, parce que vous venez de le lire, c'est marqué qu'on demande que les nuisances dues aux activités des forains soient réduites au maximum, ça figure en toutes lettres.
Et puis pour répondre
à
votre question,
que vous avez
pourquoi ça m'effraie, c'est qu'il faut quand même savoir que sur la rive droite, 90% de la clientèle, c'est des touristes qui viennent à Genève sur la rive droite pour aller sur des carousels et pour voir le feu d'artifice.
Ils n'iront pas jusqu'à plein palais, c'est ça ?
Ils n'iront bien sûr pas à plein palais et ça n'a pas de sens. Chaque fête doit avoir un sens. Donc le point d'orgue des fêtes de Genève, fête qui se déroule autour de la rade depuis bientôt 70 ans, c'est le feu d'artifice sur le lac. Alors vous allez dire aux gens, le feu d'artifice sur le lac, c'est le samedi soir et le champ de foire, il est à plein palais. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, et puis alors, il y a quand même un aspect qu'il faut peut-être pas oublier, c'est que les retombées économiques des fêtes de Genève, c'est entre 150 et 200 millions. Donc il faut quand même pas l'oublier.
Au profit de qui, s'il vous plaît ?
Au profit de Genève, au profit de l'État de Genève, au profit du budget qui nous aide également à subventionner d'autres choses.
Juste très très brièvement, Jean-Barthes, vous collectez les signatures, vous avez encore un moment, mais vous pensez aboutir. Les citoyens vont voter ?
Bah, ça, c'est sûr, c'est absolument sûr. Les citoyens vont voter quand, je ne sais pas, mais c'est une certitude.
Vous en êtes où dans la récolte de signatures ?
Alors écoutez, nous, on a fait une campagne très brève, comme je l'ai dit. On a fait 2 mois de campagne. On récolte encore des signatures. On reçoit plus exactement des signatures par voie postale. Et on a décidé, en fait, de ne déposer cette initiative que fin août, à l'échéance du délai officiel, par respect pour les gens qui nous envoient encore des signatures par courrier.
Jean Barthet, Frédéric Cole, merci beaucoup d'avoir
merci
débattu
beaucoup.
De cette question de comment refondre les fêtes de Genève. Bonne soirée à vous deux.
Bonne soirée.
Au revoir.
Et c'est l'heure de la météo d'Edmé Fleury.
Le soleil domine avec des températures caniculaires. Les cumulus en montagne peuvent encore provoquer des orages ou averses ce soir, notamment dans les Alpes valaisannes. Dès demain, de l'air plus humide affluera sur nos régions. Week-end plus instable au programme donc. Après une matinée assez ensoleillée demain, le ciel devrait se charger, d'abord sur les reliefs, puis également dans les régions de plaine. Averses ou orages prévus en fin de journée, localement forts sur les préalpes et les Alpes. Il fera toujours chaud, de 19 degrés à l'aube en plaine. Les thermomètres grimperont jusqu'à 30 à 32 degrés dans la après-midi. Une perturbation orageuse traversera nos régions entre dimanche et lundi. Ciel plus nuageux dimanche avec quelques averses à caractère orageux, mais aussi des éclaircies, légèrement plus frais, maximum 27 à 29 degrés. Un cran moins bon lundi avec un ciel changeant, retour de conditions estivales dès mardi.
Infotrafic RTS
avec Coop Primagusto et votre pomme de terre, la princesse Celtiane.
Sur le contournement de Genève, en raison d'un véhicule en panne, un bouchon s'est formé entre Perly et la douane de Bardenay en direction de la France. La voie centrale est fermée sur ce tronçon.
Julie Liardet à l'édition. À la technique ce soir, il y avait Alexandre Davoine et Ismaëlle Gonzato. Merci d'écouter Forum. Il est 19h. Bonsoir.